entre les poteaux.
Christophe Cessieux.
Salut à tous. Si les organisateurs se frottent les mains, les sélectionneurs français et néo-zélandais n'ont pas vraiment apprécié le sort que leur ont réservé ce matin les boules du tirage de la Coupe du Monde 2023 effectué à Paris devant le président de la République en personne. Bleu et Black qui devront donc s'affronter dès la phase de poule avant peut-être de se retrouver en finale comme cela avait déjà été le cas en 2011. Reste maintenant à savoir quand jouer ce premier France-Nouvelle-Zélande, pourquoi pas en match d'ouverture, certains le préconisent, d'autres un peu moins. On en débattra dans un instant. La France du rugby, qui a 3 ans de son grand rendez-vous à retrouver les couleurs en cette année 2020, pourtant si noire et blanche. Une nouvelle preuve en a été apportée par les clubs français engagés en Champions Cup. La première journée disputée ce week-end a vu 7 de nos 8 représentants l'emporter. De vrais frelons que nos clubs du top 14.
Action, liée, jeu.
Et pour évoquer tous ces sujets, les poteaux sont au grand complet ce soir. Denis Charvet en tête de liste, évidemment le seul parmi nous à avoir joué les Blacks et même à les avoir battus. Ça va, Denis?
Ouais, une fois sur 6.
Ah bah c'est déjà pas mal.
Oui, une fois sur 6. Mais en tout cas, tu t'en souviens quand tu les as joués, je peux te dire.
Tu avais des bleus le lendemain, tu avais des étoiles dans les yeux.
J'ai toujours dit que c'était une machine à laver, quoi. Voilà, tu passes dans une machine à laver, t'es essoré derrière et puis tu peux rentrer te coucher.
C'était quand? En 1986, c'est ça?
Ouais, mais j'ai la chance de les jouer 6 fois. Hein, donc ouais. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, évidemment. Mais c'est de les retrouver en 2023 face aux non bleus. J'espère pour l'ouverture de la Coupe du Monde, ça sera fantastique.
On va se régaler. Également avec nous, nos deux inséparables, et pif et paf de l'Ovalie, j'ai nommé Jeff Paturo et Wilfried Templier. Salut les garçons.
Bonjour. Moi je fais
Salut
pas.
Salut les gars, on a jamais battu les Blacks, nous.
Hein. Non. Ah non, ça risque pas. Peut-être les journalistes néo-zélandais lors des matchs de la presse.
Faut se méfier aussi.
Du monde. Les boules qui ont donc rendu leur verdict, c'était à la mi-journée au Palais Brongniart de Paris, où était organisé donc le tirage au sort de cette Coupe du Monde 2023, événement qui, comme tous les autres en ce moment, s'est déroulé à minima, avec peu d'invités dans la salle. Un minima quand même qui a fait le maximum, puisque le président de la République en personne avait tenu à faire le déplacement. Jeff, signe de son attachement à ce sport quand même.
Oui, c'est vrai, des personnalités triées sur le volet aujourd'hui au Palais Brongniart. Quelques personnalités publiques bien connues, notamment Jean Dujardin ou encore Christian Louboutin, mais la personnalité la plus notable, la plus attendue, c'était Emmanuel Macron. Comme tu l'as dit, le président de la République est arrivé discrètement avec pas mal évidemment de voitures, de policiers et des motards, mais loin des regards à partir de 12h15, avant de monter sur scène 15 minutes plus tard. Il a alors gentiment mis la pression en bleu avec un discours clair: le 15 de France devra gagner sa Coupe du Monde à la maison.
C'est simple, tous les 12 ans on est en finale. Et j'ai fait le calcul, en 2023, ça fera 12 ans qu'on n'a pas été en finale. En 2023, comme c'est à la maison, il faut la ramener. Donc débrouillez-vous.
Vous avez compris, ramener la coupe à la maison, la pression.
C'est notre projet.
Il n'a pas hurlé, mais la pression est là. On écoute la réponse d'Antoine Dupont, le demi-mêlé de cette équipe de France.
Ouais, ben je pense que déjà l'équipe de France de foot nous a mis la pression il y a 2 ans maintenant, et déjà c'était un honneur de pouvoir recevoir le président aujourd'hui pour lancer ce tirage. Et voilà, on sent que à l'image de lui, je pense que ça sera tous les supporters et le rugby français qui sera en demande de ça. C'est vrai que l'opinion publique qui change très vite, et l'année dernière on n'était pas censé sortir de poule, et aujourd'hui on nous prétend au titre de champion du monde. Donc on sait d'où on vient, on sait la route qui nous reste à parcourir, mais en tout cas on a de l'ambition, c'est sûr.
De l'ambition, faut y croire, non?
Bien sûr qu'on y croit, mais bien sûr qu'on y croit, on va en parler tout à l'heure. La France, donc, qui malgré son statut de pays organisateur n'avait pas obtenu le rang de tête de série, qui risquait de se retrouver dans une poule de la mort. Alors, la poule de la mort, on y a échappé, mais c'était pas non plus une poule au poil, hein, Jeff.
C'est ça. Déjà, faut rappeler la composition de cette poule. La Nouvelle-Zélande, ça aurait peut-être l'Angleterre, ça aurait peut-être l'Afrique du Sud ou le Pays de Galles. Bon, ce sera les Blacks. La France, évidemment, on en a parlé. L'Italie, Amérique 1 et Afrique 1. Amérique 1, ça peut être le Canada, ça peut être les États-Unis, voire l'Uruguay. Afrique 1, ça peut être la Namibie, mais le gros morceau, évidemment, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande que la France n'a plus battue depuis 2009. Ça recommence, évidemment, à remonter. Ça fait loin, mais ça procure un certain plaisir au sélectionneur Fabien Galthié.
Les All Blacks dans notre univers, c'est l'équipe qui est 3 fois champion du monde. 3 fois champion du monde, et qui est toujours présente dans ces compétitions, et qui est toujours présente quoi qu'il en soit tous les ans. C'est une équipe qui perd peu de matchs, qui est très compétitive, et c'est un mythe. Donc nous avons en premier un grand défi qui se présente à nous, les matchs de poule. Un grand défi,
et on est vraiment très très excités. Il reste 998 jours avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde.
On a encore un peu le temps, effectivement, s'exciter. Ça va faire long pour
je
rester jusqu'au bout en pleine forme. Alors, messieurs, comment jugez-vous ce tirage au sort? On a échappé au pire parce qu'on aurait pu avoir Nouvelle-Zélande et Fidji. Argentine. Ou Fidji. Bon, c'est l'Italie, a priori, l'Italie, c'est
Claude Haché, il est redouté l'Argentine, donc, à juste titre.
Hein. Il a raison.
Il a raison. Après, je pense que les Fidji, c'était un gros morceau aussi parce qu'ils nous connaissent bien. La plupart des joueurs jouent en France. Donc, ça aurait été compliqué aussi à négocier. Là, quand même, t'as l'Italie, donc tu peux voir venir. Tu te dis qu'au pire, tu vas finir second. Donc, c'est un tirage pour moi clément. Et après, la cerise sur le gâteau, je le dis, c'est jouer la Nouvelle-Zélande. Je trouve que c'est vachement bien parce que, évidemment, on va faire référence en 2007, mais c'est du passé. Là, aujourd'hui, l'équipe de France.
Il vaut mieux faire référence à 2007 qu'à 2015, hein, d'un autre côté.
Oui,
hein.
Bien sûr, la Nouvelle-Zélande, démarrer une Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande dans un match inaugural, c'est extraordinaire.
Pour le grand public,
ça va donner une.
C'est génial. Ouais.
C'est génial, ça a donné une espèce d'élan, à cette Coupe du Monde. Ça va être euphorique. Les gens vont être partout, vont vouloir des places. Il va y avoir 300 000 places à vendre alors qu'il y a 80 000 places. Non, mais je veux dire,
non, mais les gens
c'est génial.
Télé,
déjà
c'est limite,
on a entendu Charles Olivon tout à l'heure. Il dit, il y a parlé d'adrénaline. Donc, on est tous quand même, c'est même si c'est loin, on a tous envie de voir ce match déjà.
Un France-Nouvelle-Zélande, c'est sans doute pour nous Français le match le plus excitant. Oui. Il y a le France-Angleterre aussi qui est quasiment du même niveau, mais quand on joue la Coupe du Monde, c'est France-Nouvelle-Zélande qui nous intéresse.
Et puis France-Nouvelle-Zélande, c'est des références à la Coupe du Monde. Beaucoup.
Voilà. Et ce sont la plupart du temps, enfin de temps en temps des succès incroyables
pour
l'équipe de France.
C'est deux victoires cette rencontre.
Voilà, on rappelle. Ouais, mais bon, quelle victoire! 99 en demi-finale, 2007 en quart de finale.
C'est un match historique.
Et puis il y a un quasi exploit en finale en 2011 où on avait été les inquiétés, on avait perdu pour un seul petit point chez eux.
Presque volé, on va dire, du bout des lèvres, mais bon.
Bon, du coup, Denis, c'est vrai qu'on a peut-être moins de complexes face à cette équipe que face à d'autres grandes nations du rugby, même s'il faut pas oublier, comme j'y faisais référence tout à l'heure, le 62-13, je crois, en 2015, en quart de finale. Donc, il faut quand même se méfier de cette équipe.
Hein. Oui, mais 2015, c'est loin. Aujourd'hui, on a un staff de très haut niveau,
2011,
très,
plus, hein.
Très performant aujourd'hui. On a quand même les meilleurs à chaque poste, on peut le dire, sans hésiter, que ce soit Fabien qui est le sélectionneur avec avec Servat, Labitte, Raphaël Ibanez qui joue un vrai rôle.
C'est quoi le prénom de Edwards déjà, Denis?
Sean Edwards. On a quand même le roi de la défense. Non, on est prêt, on est aguerri et puis on a plus de complexe. Voilà. Tu as parlé de complexe tout à l'heure. Je pense qu'on a une équipe de France totalement décomplexée avec un réservoir qui s'est agrandi puisque dernièrement on a vu quand même des joueurs qui ont confirmé, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément. Donc si tu veux, il y a quand même un vrai effectif, un banc qui est large et puis surtout, je le redis, des jeunes qui ont le culte de la gagne. Ces jeunes qui sont passés par les moins de 19 ans, champions du monde de moins de 19 ans.
Moins de 20.
Et qui, eux, sont totalement décomplexés. Je fais référence à Julien Marchand, par exemple, qui est un joueur qui, aujourd'hui, n'a peur de rien. Donc, voilà, la Nouvelle-Zélande, tu as raison. Souvent, on a eu des complexes face à ces nations-là, mais aujourd'hui, c'est fini. Et on sera en France, et en France, on sera prêt.
La France qui est donc quasi assurée de sortir de sa poule, ce qui n'était pas le cas lors de la précédente édition. Maintenant, reste à savoir en quelle position, Wilfried, car cela va conditionner en quelque sorte le reste de la compétition. Si on termine premier, a priori, on devrait affronter l'Irlande ou l'Écosse. En revanche, la deuxième place de la poule, c'est-à-dire une défaite face à la Nouvelle-Zélande, ça nous obligerait à jouer en quart de finale
les champions
du monde sud-africains.
Ou l'Irlande.
En quart, les box, c'est pas une bonne nouvelle, ça, quand même, hein.
Non, mais bon, vous savez, alors là, Charles Olivon disait, parce qu'on réfléchit à quand les jouer, la Nouvelle-Zélande. Est-ce que ça doit être le match d'ouverture
ou
pas?
On va en parler dans un instant,
Donc, même si on perd, contre la Nouvelle-Zélande, et c'est un défi terriblement excitant, et je disais, par rapport au grand public, All Blacks, rien que ces deux mots, ça va parler à toute la France, quoi. Ça va donner une pub à cette Coupe du Monde, et c'est aussi le but, hein. Bernard Laporte le disait, qu'on récupère des licenciés et ça nous fait une Coupe du Monde, ça fait ça. Et ben ça va donner un prisme encore plus fort. Donc même si on perd contre les Blacks, oui effectivement, on peut retrouver les box, mais et ce sera plus dur que l'Irlande. Enfin c'est dans 3 ans, mais on peut estimer que ce sera plus dur que l'Irlande ou l'Écosse. Malgré tout, est-ce que les box seront contents de prendre la France à domicile en quart de finale? Non, peut-être pas. On aura encore nos chances et il y aura des écueils comme ça dans la phase finale pour être champion du monde. Donc voilà, c'est pas grave. Même si on perd, c'est pas si grave que ça. Ce sera plus dur, mais c'est pas si grave.
Puis imagine,
comment
comme
ça, si on perd en quart de finale, c'est pas grave?
Non, il veut dire.
Non, si on perd, en phase de poule.
Mais
face à la Nouvelle-Zélande.
Et inversement.
Ah oui, si on perd en quart de finale, là, ce sera grave chez nous.
Mais inversement, Macron l'a dit, hein, messieurs, vous pouvez gagner la Nouvelle-Zélande et vous retrouvez contre l'Irlande qui sera pas forcément un match facile à négocier.
Un cadeau non plus, pas un cadeau.
Donc on sait pas trop en fait, parce que l'Irlande dans 3 ans, elle sera à quel niveau, on n'en sait rien aujourd'hui. Ouais. Elle est pas au...
Sexton aura 53 ans. Hein.
Oui, non, mais Sexton, mais voilà, on peut penser que ça sera facile.
Perso, je préfère battre les Blacks en match de poule et affronter l'Irlande ou l'Écosse.
Ouais,
en...
Oui, pareil.
On peut penser que c'est mieux, mais après, ouais, regarde.
Si quelqu'un dit le contraire, si tu trouves quelqu'un qui dit le contraire,
regardez
dit le contraire.
Je veux dire le contraire, pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a perdu contre les Blacks et a été championne du monde. Donc c'est quoi? Est-ce que tu vas tout donner contre la Nouvelle-Zélande pour perdre derrière dans la compétition? Je suis pas sûr. Donc voilà, il y a quand même une réflexion.
Une victoire sur les Blacks, Denis, ça amène de la confiance quand même.
Oui, aussi, bien sûr. Mais je le répète, le réservoir de l'équipe de France, c'est voilà, aujourd'hui, il s'élargit, c'est ça l'important.
Et il faut rappeler qu'en 2011, on avait perdu contre la Nouvelle-Zélande.
Exactement, on avait pris une balle d'ailleurs.
37-17 en troisième match et on était quand même allé en finale.
Et on a failli les battre en finale.
Alors, si on connaît l'identité donc de nos adversaires, on ne sait pas encore dans quel ordre les matchs seront disputés. Ce France All Black fait beaucoup parler. Faut-il en faire un prestigieux match d'ouverture ou attendre un peu que les Bleus se soient rodés dans la compète? Écoutez ce qu'on disait ce matin de Bernard Laporte, président de la fédération, mais aussi ancien sélectionneur. Et c'est à ce titre d'ailleurs qui s'est exprimé ce matin.
Voilà, je crois qu'effectivement, il n'y a pas de vérité là aussi. Il y a des avantages et des inconvénients. Ça lance une Coupe du Monde, un match France-Nouvelle-Zélande. C'est une certitude. Après, c'est vrai que ça peut, à l'image de France-Argentine, faire retomber le soufflet un petit peu. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Si on me demandait mon avis, avec le recul, moi, je le positionnerais en troisième position. Mais bon, ça ne regarde que moi. Et je vous garantis que je ne participerai pas à la décision. Ça, c'est la décision du staff. C'est à eux de voir s'ils préfèrent que ce soit le match d'ouverture, que ce soit le deuxième, que ce soit le troisième, que ce soit le quatrième. Ça leur regarde. Moi, avec mon expérience, je pense que troisième match, ça serait bien.
Voilà, il reste encore traumatisé par cette défaite face à l'Argentine en 2007.
Hein. Tu as entièrement raison. Je pense qu'il a été chaudé par ce premier match où il y avait trop de pression.
Ça fait une pression énorme.
La vérité, c'est que la pression elle était maximale. Ouais. Mais moi, je me souviens très bien de cette période-là. Et alors, la différence, c'est que là, tu joues les Blacks. Et que quand tu joues à l'Argentine, eh ben t'étais favori. Là, t'es pas favori. Mm-hmm. Donc la posture n'est pas la même.
Et on va pas lire une lettre cette fois-ci.
Il y aura pas la moquée, sera pas là. Peut-être y aura Charles de Gaulle, mais bon. La lettre de Charles de Gaulle. Bon. Non, mais alors... je pense que la pression n'est pas la même et que Bernard a été trop marqué par cette histoire.
Mais c'est important ce que dit Bernard Laporte, c'est ce que disait Claude Haché, c'est que le staff du 15 de France aura son mot à dire. Et ça, c'est capital.
Oui.
Qu'est-ce qui décide, Louis? C'est Claude Haché? C'est des sélectionneurs qui s'arrangent entre eux?
Le staff du 15 de France pourra, c'est ce que disait Claude Haché, ce que confirmait Bernard Laporte, c'est que le staff du 15 de France pourra dire, nous, on aimerait bien que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième.
D'accord. Et donc, ça, il y aura la priorité sur la Nouvelle-Zélande.
Le comité d'organisation va tenir en compte.
D'après Claude Haché, c'est le staff qui décidera, ouais.
Ouais. Très bien. Bon, après, c'est vrai qu'un France-Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde pour lancer l'événement, ça aurait de la gueule quand même, non?
C'est ce que disait Charles Olivon. Il aimerait que ça commence par un France-Nouvelle-Zélande.
Les joueurs aimeraient, donc c'est plutôt positif par rapport à la suite. Hein. Si les joueurs ont envie de démarrer avec France-Nouvelle-Zélande, c'est peut-être que le staff suivra leurs idées. Hein.
Ça doit se décider quand d'ici le mois de février, c'est ça, Jeff?
C'est ça, on connaîtra les affiches au mois de février. Pour l'instant, on sait juste la date, le 8 septembre 2023, pour le premier match de la Coupe du Monde. Il faudra attendre encore quelques semaines pour connaître toutes les affiches et savoir quelles villes vont recevoir quel match. Ouais.
Très bien. Un petit mot quand même des autres poules. Dans la poule B, on va retrouver donc l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Écosse. La poule C, le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji.
Ouais,
et
la poule C, c'est un classique.
Trois Coupes du Monde c'est la même poule. Ouais.
C'est un classique.
C'est incroyable, énorme, cette
poule. C'est incroyable. C'est toujours la même chose. Tu as raison. Et puis la poule B, ce sera l'Angleterre, le Japon et l'Argentine.
Elle est pas mal aussi celle-là.
Ouais, elle est pas mal celle-là. Ouais. Hein. Quelle est celle qui vous fait la plus belle impression, à part la nôtre?
Mais l'Australie, Fidji, Pays de Galles, ça va être relevé. Mais est-ce qu'ils étaient pas ensemble? Non, ils étaient pas ensemble la dernière Coupe du Monde, non. Je croyais qu'ils étaient dans la même poule.
Si,
c'est ça, oui. Ouais. Ben, l'Australie, Fidji, c'est sûr. Non, il y a après les poules.
Non, la dernière poule est géniale. Ouais. Angleterre, Argentine, Angleterre, Japon, Argentine. Les styles. Eddie Jones a dit qu'il se méfiait terriblement des Argentins. Il a dit que c'était l'équipe qui avait le plus gros physique, notamment les avants du rugby mondial, quoi. Donc ça fait. Et puis avec le Japon, différence de style. Moi, je trouve ça. Ouais. Je la trouve excitante cette poule D, en fait.
Ouais. eh bien, nous verrons ce qu'elle nous réservera. Espérons que le Japon pourra encore progresser et nous
montrer. Espérons que les Anglais tombent.
Ah, oh, mais ce serait magnifique. Donc, il ne reste plus maintenant qu'à attendre fin février, donc, pour l'ordre des matchs et puis un peu plus tard. Donc, 996 jours. Hein.
Moi, 998
j'ai compté 96,
aujourd'hui.
Moi, j'en ai compté
non,
96.
On était à 1000 samedi, donc, j'ai calculé. Ça fait 2 mois,
d'accord.
En fait, je crois.
Avant, donc, d'assister à ce fameux match d'ouverture. Alors, pourquoi s'être précipité finalement pour organiser ce tirage au sort aussi rapidement? On en parle tout de suite dans la boîte à gifles.
RMC, entre les poteaux,
la boîte à gifles.
Oui, un tirage au sort qui s'est donc fait un peu dans la précipitation, puisqu'on rappelle que l'identité de plus d'un tiers des équipes qui participeront à la compétition n'est pas encore connue. Pourquoi tant de hâte? La réponse de Claude Haché, le président du comité d'organisation.
Est-ce que nous pouvions prendre le risque de se retrouver en phase des Jeux sur une même période de vente de billets? Ça nous paraissait compliqué. Donc on a effectivement réfléchi à ouvrir le plus tôt possible pour se prémunir, pour gérer le risque de l'ouverture par les Jeux d'une billetterie un peu plus tard et qui viendrait cannibaliser la vente de billets Coupe du Monde de rugby. Donc ça, c'est le premier élément important. Le deuxième, c'est qu'on avait aussi besoin de lancer la compétition rapidement. On a finalisé nos contrats avec les villes. Aujourd'hui, on a besoin d'animer ces villes, de les engager. Si on veut respecter notre volonté de pouvoir démontrer que c'est une Coupe du Monde des territoires, il faut qu'on leur donne des éléments matériels.
Voilà, donc les villes vont pouvoir s'impliquer dans la Coupe du Monde rapidement. On peut comprendre que la billetterie a besoin de visibilité, mais moi je suis pas sûr que les futurs spectateurs se précipitent quand même tout de suite sur les billets. Hein, on rappelle la situation sanitaire, on ne sait pas quand elle va s'arranger. Autre fait étonnant, peut-être celui d'avoir procédé à ce tirage au sort avec un classement des équipes qui datent de janvier dernier, depuis la situation sportive.
Mais malheureusement, c'est logique vu la pandémie. Il faut rappeler, Christophe, qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué depuis la Coupe.
Tu repousses le tirage au sort. Pourquoi tu le fais si tôt?
Ils auraient pu repousser au moins jusqu'à la fin du tournoi Destination.
Mais oui.
Et la France, là, aurait été tête de série quatrième. Mais il y a des équipes qui n'ont pas joué depuis la Coupe du Monde 2019. Il y a des équipes qui n'ont pas joué depuis un an.
Oui, mais enfin, le Japon, là, tu mets l'Argentine dans le chapeau 3. L'Argentine qui vient de battre les Blacks, quand même. Le Pays de Galles dans le chapeau 1, il touche plus une bille depuis un an. Ce classement, il n'a rien à voir avec
fait,
la réalité.
C'est fait maintenant.
Oui non, mais je pense qu'on aurait pu râler si on avait pris les All Blacks et l'Argentine, je pense qu'on aurait pu faire la gueule.
Là, effectivement,
ça sent pas mal.
Là, 2-3 boules chaudes, hop là, les Blacks, l'Italie,
Jean-Luc Jardin. Tu crois qu'il y avait des boules chaudes?
Non. Bah, parfait. Attends.
Mais en tout cas, on peut dire qu'on a eu de la chance. Franchement, c'est bon. Ça aurait pu être.
Ouais. Et puis finalement, le tirage au sort, il est assez équilibré. T'as des poules assez équilibrées de
tous
les côtés.
Non, mais une fois que l'Argentine est passée, moi, je sais pas vous, mais le premier tirage, quand j'ai vu l'Italie, j'ai fait waouh, c'est bon, quoi. C'est parce que l'Argentine, on risquait de pas sortir notre poule. Enfin, c'était sportivement, ça aurait été dur.
La même situation que la dernière.
Exactement. Ça aurait rappelé des souvenirs de 2007. Ça aurait été, tu vois, on aurait ressorti les vieilles histoires. Et
en 2007, c'était
Au lieu d'être excité pendant 998 jours, on a été tendu pendant 998 jours.
En 2007, c'était le match d'ouverture et le match de classement, et ça avait été des bagarres sur le terrain et en dehors. Ils s'étaient embrouillés, d'ailleurs, après le match de la troisième place qu'on avait perdu au Parc des Princes.
Ah oui.
Bon, eh bien, nous verrons ce que ça nous réserve comme surprise. On espère évidemment que nos Français arriveront lancés comme des frelons en septembre 2023 pour repousser les envahisseurs anglo-saxons hors du territoire après leur élimination, évidemment. Les frelons, pour l'instant, eh bien, ce sont les clubs français qui ont fait main basse sur la Champions Cup ce week-end lors de la première journée de cette compétition quelque peu remaniée.
Dupont, peut-être deux contrats, il va donner, non, il va y aller tout seul! Oh, Antoine Dupont! Comme à son habitude, festival! Allez, Chestine Côte-Billon, un contrat, le contre inter, il a glissé, mais il va marquer! Il va marquer Justin Colby!
Oh,
mais c'est pas possible! En un contre un, c'est impossible de l'arrêter! C'est terminé! La victoire du Stade Toulousain!
Côté gauche, Tavernier! Le voilà, le premier essai pour le RCT après un petit festival magnifique!
Et la victoire pour le Racing 92!
Première journée, 7 victoires sur 8. Seul Montpellier a perdu contre le Leinster hier.
La Champions Cup qui était donc de retour ce week-end, 8 semaines seulement après la finale de l'édition précédente, une Champions Cup remaniée en raison de la crise et qui a donné lieu à un sacré tir groupé des clubs français. 7 sur 8 se sont imposés, Wilfried, c'est du jamais vu, je crois, hein.
Bah ouais, c'est jamais vu. En même temps, il y avait jamais eu 8 clubs français qualifiés hein, pour la Champions Cup, donc tout est inédit. Enfin, quand même, franchement, on s'attendait à certaines victoires. Allez, celle à domicile de Lyon face à Gloucester, la plus grosse raclée d'un club anglais en Coupe d'Europe, hein, avec un loup qui va vraiment pouvoir bénéficier de son bon tirage, hein, grâce à sa deuxième place l'an passé, parce que c'est comme ça, il y a comme des chapeaux avec votre classement l'an passé. Et puis, bah, candidater peut-être une qualif. Il y a eu des années à galérer pour Lyon. Hein, faut apprendre en Champions Cup. Il y a eu le Leinster, il y a eu les Saracens. Bah là, c'est plus ouvert. Toulon contre Sale, on s'y attendait aussi quand même, et c'est pareil, hein, Toulon avec Klanekli ensuite à jouer, et bah, Toulon peut être ambitieux, et enfin celle du Racing face au Connacht, malgré la frayeur en fin de match, on s'attendait à cette victoire. On a été surpris agréablement par la victoire à l'extérieur de l'UBB, un vrai bon match à Northampton, sérieux, opportuniste. Vous avez vu l'image de l'essai de Cordero, hein, qui profite du poteau de Jalibert pour marquer l'essai au nez à la barbe des Anglais. Il y a quand même deux grosses perfs, messieurs, qui retiennent l'attention, celle de Toulouse en Ulster. Jamais facile de gagner là-bas, sans parler du bonus offensif, ça c'est carrément rare. Toulouse qui a gagné en groupe, on va dire, en Irlande du Nord. Hein. Il y a eu, rappelez-vous, l'entrée de Louis-Benoît Madol qui pique un ballon en touche, qui obtient une pénalité importante près de sa ligne. Balèze qui a été précieux, tout comme le banc. Et puis, quand vous avez des bons joueurs, c'est tout de suite plus facile. Hein. Dupont, Colby, les tueurs hein, qui vous crucifient les équipes avec des miettes. Je pense que Stockdale cherche encore ses reins sur le terrain face à Colby. Et Hugo Mola, écoutez, le manager est vraiment satisfait.
Faire 5 points aujourd'hui en Ulster dans les conditions où c'était un crachin affreux, le ballon était hyper glissant, plus devant. Oui, prendre 5 points aujourd'hui, c'est une réelle performance. On a battu une très très belle équipe de l'Ulster. On sait que la compétition ne se termine pas ce soir. On se donne le droit de jouer le champion d'Europe dans des conditions idéales. On porte l'étendard du Stade Toulousain.
Et oui, maintenant les Toulousains vont devoir faire mieux dimanche contre le champion d'Europe, Exeter. Exeter qui a laminé Glasgow 40-0. Ah ouais, on se lèche les babines. Hein. Déjà, avant ce duel, ce sera dimanche donc. Et enfin, le match à voir du week-end, si vous l'avez pas vu, bah, regardez-le. Bristol-Clermont, 51-39 pour Clermont, 12 essais, 7 pour Clermont, triplé de Matsushima, une orgie de jeu avec des hommes forts, hein, Kankorie, Getrasiak, Lee, Parra, très bon Morgan Parra, hein, Moala, Penoraka. Franchement, messieurs, on a revu le Clermont 2017, hein, un mélange de puissance, de vitesse, vraiment impressionnant. Ils ont frappé très fort et ils seront là pour la qualif. Dernier mot, Montpellier, seul battu, ouais. Battu chez lui. Peut-être que Montpellier n'a
l'exception
pas l'effectif pour jouer sur les deux tableaux.
Règle,
ouais, il doit se concentrer peut-être sur le top 14. Oui, c'était il y a deux niveaux d'écart, ouais. Hein, c'est sûr, ouais. Hein, une machine comme le Leinster. Mais bon, en résumé, on va dire que les clubs français prolongent le bel automne international des Bleus et c'est tant mieux.
Exactement. Et alors, la défaite de Montpellier avec cette formule remaniée fait aujourd'hui, Denis, que Montpellier n'a quasiment plus aucune chance de se qualifier pour la suite de la compétition.
Montpellier veut jouer contre l'ogre de Leinster, qui est une énorme équipe et qui peut être une des meilleures équipes européennes aujourd'hui, qui prétend au titre. Donc, pas de surprise. Je pense qu'en plus, ils ont été courageux et valeureux. Mais bon, ils savaient quand même que ça relevait de l'exploit et ils l'ont pas fait.
Xavier Garbajosa disait qu'ils étaient diaboliques, les joueurs du Leinster. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, malheureusement.
Ils sont cliniques. Voilà, j'allais de te dire, c'est incroyable, ils sont vraiment précis, voilà. On a retrouvé une très belle équipe.
Ils ont tellement roulé leur boss, Denis, dans cette Coupe d'Europe.
Après, ce que je m'a plu dans cette Coupe d'Europe, eh bien, c'est que l'enjeu n'a pas tué le jeu et que tu vois des matchs. Tu vois des matchs spectaculaires que tu vois pas en top 14.
Tu joues pour gagner, pour marquer des essais. Et ça change un peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Mais surtout par rapport au top 14, je le répète, tu n'es pas frileux, tu n'hésites pas à attaquer tout le temps et on a vu des matchs, des actions formidables et bravo à cette Coupe d'Europe. Moi, ça m'a rassuré sur cet état d'esprit qui parfois il manque au championnat.
Est-ce qu'il n'y a pas justement des choses à retenir de cette organisation, de cette formule remaniée pour essayer de réinventer le rugby,
peut-être,
pour lui redonner justement des envies de jeu, d'orgie de jeu comme on a assisté.
Non, mais de réinventer la Coupe d'Europe déjà, peut-être pour les années à venir. De réinventer la Coupe d'Europe. Souvenez-vous, c'est 5e match, 6e match où il y a des équipes déjà éliminées. Bon là, c'est possible.
On dira ce que vous donnez les 4e match. Ouais,
moi, me plaît bien cette Coupe d'Europe.
Oui, mais là, c'est un sprint à fond. Faut le plus de points possible en 4 matchs. Donc franchement, pour ceux qui aiment ce sport, qui nous écoutent, j'imagine, parce que quand on prend le podcast, regardez le Bristol Clermont, vous allez vous gaver. C'était génial.
La seule chose, c'est que ça manque un peu de visibilité, cette Coupe d'Europe. Comment je pourrais dire, la formule en elle-même, avec deux poules.
Oui, mais on était obligé par rapport
au Covid. Oui, parce qu'il y a pas mal raccourci.
Donc on l'a raccourci.
Mais c'est vrai que les deux poules avec deux poules de 12.
Oui, mais c'était la meilleure solution, Jeff.
On s'en fout. On regarde les matchs, on prend plaisir, à la fin on fait les comptes.
À l'arrivée, ça permet aux équipes de se lâcher. lâcher. Donc quelque part, tu peux dire que c'est une bonne formule puisque les équipes se lâchent.
Mais en Coupe d'Europe, elles se lâchent plutôt régulièrement.
Et c'est pas un problème d'intensité parce que tu le vois physiquement, c'est au top. Il y a beaucoup d'engagement et que à l'arrivée, ben tu vois du spectacle et tant mieux pour le rugby.
Et tu n'as pas d'impasse, ouais. Tu ne peux pas faire d'impasse, faute de quoi, tu
es un peu déçu par certains clubs anglais quand même, hein, messieurs.
Bah, enfin, peut-être qu'ils sont, ils sont moins au niveau que nous.
Le Racing a eu chaud aussi, hein.
Bon, on espère évidemment que cette embellie d'automne va se prolonger la semaine prochaine avec encore de très beaux rendez-vous. Clermont-Munster, ce sera samedi et Wilfried nous en parlait. Toulouse-Exeter, donc face aux champions d'Europe en titre. Match qui sent la poudre, on le vivra avec toi Wilfried, ce sera dimanche à 16h15. Voilà de beaux rendez-vous en perspective à plus ou moins long terme. L'assurance en tout cas de se régaler tous les week-ends, au moins jusqu'en 2023. Cette date de Nice sera très très proche de la retraite, hein. Mais bon, il sera encore là, je suis sûr, avec sa petite canne.
Jubilé.
Et ce sera ton jubilé, on l'espère. Merci les garçons, retrouve la semaine prochaine entre les poteaux. Pardon, tu as dit quoi, Wilfried ?
Je sais pas avant.
Je voudrais bien t'en débarrasser du vieux.
T'inquiète pas.
Alors, je suis encore là. Mais non, la fleur, on t'emmène jusqu'en 2023.
Et alors ?
Allez les gars, à la semaine prochaine.
Jusqu'à la Coupe du Monde, on va la soulever.
Entre les poteaux.
Ciao.